Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Corporate Chat Podcast. Dans le balado qui suit, Mathis Grandchamp et moi-même, Loïc Meunier, avons eu la chance de s'entretenir avec M. Jacques Farcy, président et chef de la direction de la SAQ. Durant cette conversation, nous avons pu explorer son parcours, ses connaissances sur l'industrie ainsi que sa perspective sur la gestion d'une société d'État. Sur ce, bonne écoute!
Bonjour Jacques, comment ça va?
Bonjour, ben, ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir à la SAQ. Bienvenue chez vous.
Merci beaucoup. C'est très apprécié de nous recevoir. Écoute, on va y aller directement dans l'interview. Peux-tu nous parler un peu peut-être de ton parcours professionnel, ton éducation, dans quel milieu social-économique viens-tu?
Oui. Ben, peut-être à mon accent, vous dénotez que je n'ai pas tout à fait perdu mon accent français. En fait, je suis français d'origine. Moi. Puis, je suis arrivé au Québec à l'âge de 40 ans. C'était en 2010. Et je suis canadien depuis 2016. Donc, ça, c'est je dirais, j'ai la chance d'avoir deux identités, deux passeports. Et en fait, sur mon parcours professionnel, je viens de l'est de la France. Je suis né en Lorraine, dans une petite ville qui s'appelle Nancy. Et j'ai eu plaisir à vivre toute ma jeunesse à Nancy. J'ai fait mes études et j'ai fait une école de commerce en France, ce qui s'apparente à des études d'administration ici. Et j'ai commencé à travailler dans une grande société américaine qui s'appelle, alors je le francise, Procter & Gamble. Bon, quand je le dis en français, ça fait marrer tout le monde. Mais voilà, j'ai commencé dans la vente. Ensuite, j'ai fait du marketing chez Black & Decker pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai passé 15 ans dans une industrie qui se développait au tournant des années 2000, qui était l'industrie de l'exploitation de la donnée, le data mining, la donnée client, le marketing client. Okay. J'ai rejoint une société qui s'appelait Catalina Marketing, une société américaine également. Et puis ensuite, j'ai rejoint une autre société qui s'appelle Denumby. Et j'ai vécu en Belgique de 2003 à 2006. Ma femme m'a emmené en Belgique avec les enfants. Et ensuite, je suis arrivé au Québec en 2010, envoyé par mon employeur de l'époque qui s'appelait Denumby, pour travailler avec Métro, les épiciers, sur le lancement d'un programme de loyauté qui s'appelait Métro et moi, qui vient de changer de nom, qui s'appelle Moi maintenant. Et j'ai eu 5 très très belles années à travailler avec les équipes de Métro de 2010 à 2015. Et en 2015, j'ai rejoint la SAQ.
La SAQ, à titre de?
Alors, je suis rentré comme vice-président de la commercialisation en 2015. Moi, je suis rentré le 25 mai. Puis en 2015, la SAQ lançait SAQ Inspire, le programme de reconnaissance. Et moi, je suis rentré pour être vice-président à la SAQ. Donc, j'ai eu la chance de rentrer dans cette belle organisation que je connaissais pas, quasiment pas. Je savais ce qu'était la SAQ de mes expériences en succursale, mais ça s'arrêtait là. Et j'ai découvert ce qu'était la SAQ de l'intérieur et ça m'a passionné. J'ai vraiment découvert une entreprise incroyable, des équipes passionnées. J'ai vraiment eu comme un coup de cœur pour l'organisation. Et je me suis dit, peut-être que je vais faire un petit bout de chemin. Puis j'y suis resté près de 6 ans. Et en 2021, j'ai rejoint la SQDC, la Société québécoise du cannabis, pour diriger la SQDC après Jean-François Bergeron, qui avait été le premier président. J'y suis resté un an et demi. Et puis quand Catherine Dagenais, ma prédécesseure à la SAQ, qui était la présidente de la SAQ, a annoncé qu'elle ne renouvelait pas son mandat, je me suis dit, c'est peut-être le moment de postuler. Donc j'ai mis mon nom dans le chapeau, j'ai passé les entrevues. Et puis un jour, j'ai reçu un appel en me disant que j'étais la personne qui pourrait se joindre à la SAQ à nouveau pour la diriger pour les 5 prochaines années.
Puis, si on vient un peu dans le temps, vous avez été chez Denumby.
Oui.
Puis ensuite, vous avez transféré vers la SAQ. Comment que ça a été justement ce changement d'industrie-là? Comment on se prépare à ça? Puis comment ça vous a impacté?
Ça a été très particulier parce que c'est une industrie, c'est deux industries très très différentes. Denumby, c'est une société, je dirais une société de conseil essentiellement. J'étais au bureau de Montréal, ensuite j'ai dirigé Denumby au Canada. C'était une petite équipe, on était un peu plus d'une trentaine de personnes, 13 nationalités. Donc c'était vraiment, je dirais, un modèle d'affaires aussi très très particulier. Me joindre à la SAQ, je le redis, je suis arrivé à la SAQ pour un projet. C'était un projet de transformation. SAQ Inspire arrivait, il fallait transformer, accompagner les équipes, aider les équipes à transformer la manière de faire du marketing. Donc, je suis plus rentré pour le projet. Et une fois arrivé à la SAQ, j'ai découvert l'organisation. Et là, ça m'a ouvert les yeux sur le modèle, sur le bénéfice de la SAQ pour le Québec. Et je dirais que c'est vraiment là où j'ai réalisé que c'était un modèle dans lequel j'avais envie de me développer et pas juste de faire un passage.
Puis, comment dirais-tu que le changement de la vice-présidence à un poste de présidence T'sais, comment le changement s'est fait? Est-ce que ça a été facile? Qu'est-ce que ça a impliqué? Est-ce que c'était une pression supplémentaire?
Ben, c'est sûr que c'est pas le même poste. C'est pas un président, c'est pas juste un super vice-président. C'est une responsabilité différente. Puis bon, je pense que chacun peut le vivre de manière particulière. Je pense que ça renvoie aussi à l'identité des dirigeants, comment on se voit. Moi, je me suis toujours vu comme quelqu'un qui fait partie d'une équipe, quelqu'un qui anime un collectif. C'était vrai quand j'étais vice-président, c'était vrai quand j'étais président. Je me suis aussi vu comme quelqu'un qui nouait des relations, des contacts, qui essayait de faire travailler ensemble des gens à la fois de l'interne des organisations, mais aussi de l'extérieur, autour d'un projet commun. C'était vrai aussi comme président, mais c'est sûr que les responsabilités sont différentes et qu'on a, on endosse, je dirais, une fonction. Bon, moi, j'ai toujours l'impression de me voir comme Jacques Farcy, comme la personne que je suis. Parfois, mon entourage me rappelle que j'occupe aussi un rôle et une position particulière et je veux faire honneur à cette position. Mais je dirais que dans ma perception à moi, les choses se sont faites de manière assez progressive. Je pense que chaque étape de ma vie professionnelle m'a aidé à me préparer à la suivante. Et j'avais pas idée que je pourrais finir un jour à ce poste-là. Ça faisait pas forcément partie de mes plans de carrière. Okay. Moi, mon moteur à moi, c'est l'apprentissage. Donc, tant que j'apprends, je suis le plus heureux des hommes. Le jour où j'apprends plus, généralement, je trépigne, je tape du pied, je commence à graffiner contre les murs. Là, il faut qu'il se passe quelque chose.
Donc, tu as mentionné que tu t'es toujours vu comme quelqu'un qui est part d'une équipe. Maintenant, en tant que PDG, tu dois définir la culture, puis justement définir les objectifs pour cette équipe-là. Comment a été cette transition-là à vraiment être la personne qui met ces objectifs-là? Puis comment
qui bâtit l'équipe?
Exact.
Bah, c'est sûr que moi, j'ai eu de la chance. Bon, quand je suis arrivé à la SQDC, je ne connaissais pas encore l'équipe de la SQDC, mais la SQDC avait été créée par la SAQ, donc j'avais suivi un petit peu de loin comment les choses s'étaient passées. Donc, je n'étais pas totalement, je dirais, étranger. Je savais un peu la culture de l'organisation. Donc, ça je me suis adapté. Puis, il y avait... C'était des très, très belles équipes à la SQDC, donc il n'y a pas eu un débat de se dire il faut constituer une équipe. C'était plutôt comment on travaille ensemble avec l'équipe qui était en place et qui était de grande qualité. Et quand je suis revenu à la SAQ, c'est exactement la même chose. Mais c'est sûr que moi, je crois beaucoup à la capacité à faire travailler les gens ensemble sur leurs forces. Pour moi, il y a trois choses qui sont très importantes. C'est la force de l'équipe. C'est la contribution individuelle, comment chacun peut faire valoir le meilleur de lui-même au sein de l'équipe. Puis une troisième chose qui est très importante aussi, qui est la parole libérée. Comment on s'assure que dans les équipes, on est capable de se dire les vraies choses avec respect, mais qu'on est aussi capable d'adresser parfois les choses qui vont un petit peu moins bien ou les choses sur lesquelles on est capable d'apprendre tous ensemble et pas uniquement les choses merveilleuses. Puis bon, quand on est président d'une organisation, au fur et à mesure où l'information transite dans l'organisation, elle a tendance à s'améliorer jusqu'à arriver à mon bureau où les choses sont souvent très bien, parfaites, etc. La parole libérée, pour moi, c'est aussi la capacité à se parler à l'interne des choses sur lesquelles on peut continuer à s'améliorer. Puis toute organisation n'en manque pas. À la SAQ, il y a encore plein de choses sur lesquelles on peut s'améliorer, même si on peut aussi être fier des belles choses qu'on fait.
OK. Puis dernière question sur le rôle de président, mais comment as-tu géré la présence médiatique de la SQDC, de la SAQ, ou vraiment la relation avec le public, étant donné que c'est une société d'État, puis il y a quand même un aspect assez politique à la chose?
Alors, je dirais pas qu'il y a un aspect politique, parce que je pense que même si on est dans un environnement particulier, on est une société d'État, effectivement. On a un actionnaire unique qui est, dans notre cas, que ce soit à la SQDC ou à la SAQ, qui est le ministre des Finances, le ministre Éric Girard en ce moment. Oui, on a un actionnariat particulier, mais je pense que le travail d'un PDG, c'est d'être le premier représentant de son organisation. Donc il faut bien comprendre quelle est l'organisation. Il faut aussi être capable de faire un travail de vulgarisation, d'expliquer à la fois à l'interne quelles sont les directions dans lesquelles on veut aller, mais aussi être sensible et nouer des liens avec des partenaires extérieurs. On est dans un écosystème. Il y a beaucoup de gens qui sont importants autour de nous, et c'est particulièrement vrai à la SAQ. Donc cet exercice de communication, il est très présent. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, je le dis souvent, j'ai pas beaucoup d'armes comme président ou j'ai pas beaucoup de leviers comme président, mais le fait d'être beaucoup à l'écoute et le fait d'être capable de beaucoup expliquer aussi, ça, c'est deux éléments qui sont très, très importants pour que je sois capable de mener ma mission. Puis je suis jamais tout seul. J'ai la chance d'avoir un comité de direction autour de moi, puis un peu plus loin, 7000 collègues partout à la SAQ. C'est pas moi qui fais le travail, ce sont mes collègues qui travaillent à faire arriver les choses. Moi, j'essaye de créer le contexte dans lequel tout le monde est capable de performer.
Puis tu as été PDG à la SQDC, puis à la SAQ. Qu'est-ce que tu dirais sont tes observations entre les deux, les différences, les ressemblances entre ces deux expériences?
Alors, c'est deux sociétés très différentes. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a quelques points communs. Tous les deux, on vend des produits qui ont un impact sur la santé. C'est des produits qui sont des produits qui méritent d'avoir ce qu'on appelle chez nous de l'éthique de vente, c'est-à-dire qui méritent une commercialisation particulière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on partage avec la SQDC. Maintenant, il y a aussi beaucoup de différences, notamment sur l'acceptabilité sociale du produit. Je veux dire, le cannabis, c'est quelque chose de très, très nouveau encore. Le Canada fait vraiment partie des précurseurs. Bon, l'alcool, ça existe dans nos sociétés depuis beaucoup plus longtemps. On a beaucoup plus de recul sur les effets de l'alcool, également c'est un marché qui est multinational. Je veux dire, il y a des vins, des spiritueux qui sont produits partout sur la planète. La SAQ interagit partout sur la planète, dans plus de 70 pays différents. Donc, il y a vraiment des grosses différences entre les deux organisations. Mais je pense que, et il faut reconnaître ces différences, parce qu'on ne peut pas gérer la SAQ comme on gère la SQDC de la même manière. La loi ou la vision ou la raison d'être n'est pas la même. Donc ça, faut bien s'adapter à ça. Mais effectivement, le fait d'être au service du Québec dans son ensemble, le fait d'être une société d'État, d'avoir le bien commun assez haut dans ses préoccupations, ça demeure pour les deux organisations.
Étant donné qu'on... Comme tu as dit que c'est une société d'État, comment est-ce que, étant donné qu'il n'y a pas nécessairement de compétiteur direct, corrige-moi si je me trompe, mais sachant qu'il n'y a pas ces concurrents-là, comment est-ce qu'on optimise les opérations? Vu qu'on n'a pas de concurrents, on ne peut pas nécessairement se comparer avec les autres. Comment on touche à cette optimisation opérationnelle-là?
Ben c'est un point très important parce que ça dépend de ce qu'on définit comme étant de la concurrence. Dans le cas de la SAQ, effectivement, la perception, c'est que la SAQ est en situation de monopole sur l'alcool et que donc tous les vins, les spiritueux qui sont vendus au Québec passent par la SAQ. C'est vrai pour les vins et les spiritueux, mais faut se souvenir que les bières et les boissons à base de malt, c'est aujourd'hui 45% de l'alcool vendu au Canada. Sur ces marchés-là, la SAQ est très peu présente. On vend quelques bières dans nos succursales, mais le marché de la bière, il n'est pas à la SAQ, il est beaucoup plus chez les épiciers, chez les dépanneurs, chez certains commerçants spécialisés. Donc, si on considère l'alcool, on a la moitié du marché, un petit peu plus de la moitié. Donc, on est en situation virtuellement de compétition avec une autre forme d'alcool. Mais même au-delà de ça, je pense que ce qui fait que les organisations sont attentives, c'est pas uniquement le fait qu'elles soient dans une forme de compétition. La SAQ a la chance d'exister depuis plus de 100 ans. On a un historique très important. On fait partie de la vie du Québec et du quotidien des Québécois depuis de nombreuses années, mais on a démontré qu'on était capable de s'adapter de manière très régulière. Et je crois que ce qui fait qu'on s'adapte, c'est parce qu'on doit être très clair sur la raison pour laquelle on existe. Puis souvent, ça peut choquer certaines personnes quand j'exprime la raison pour laquelle la SAQ existe. Mais la raison pour laquelle la SAQ existe, c'est pas vraiment pour vendre des vins et des spiritueux, même si ça nous fait plaisir de vendre quelques bouteilles. Mais il y a beaucoup d'autres gens qui vendent très bien des vins et des spiritueux. On peut penser aux restaurants, on peut penser aux épiciers. Donc vendre de l'alcool, c'est ce qu'on fait, mais c'est pas la raison pour laquelle on existe. Fondamentalement, la SAQ existe pour satisfaire les Québécois qui, en 1921, ont fait un choix d'avoir un accès libre à de l'alcool, alors qu'il y avait de la prohibition partout autour de nous. Donc ça a été un choix des Québécois de se dire on veut avoir accès à des boissons alcooliques, vin et spiritueux, la bière également. Donc nous, il faut qu'on satisfasse chacun des clients, mais avec la perspective que 100% de nos bénéfices revient pour l'ensemble des Québécois. On remet 100% de nos résultats au ministre des Finances qui, lui, utilise cet argent pour financer les missions de l'État en fonction des choix politiques qui sont faits par les gouvernements que les Québécois décident d'élire de manière régulière. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important de garder bien ça en tête, de se dire c'est la raison pour laquelle on existe. Et donc, les volontés des Québécois, les choix des Québécois, les attentes des Québécois en tant que consommateurs, ben, elles évoluent de manière rapide et de plus en plus rapide. Et ça, c'est ce que nous, on doit capter. C'est le jour où la SAQ est plus pertinente pour les Québécois, on a comme une situation qui n'est pas favorable. Donc nous, ce qui nous garde très éveillés, c'est de satisfaire les clients. Ce n'est pas le fait qu'on ait ou non de la compétition, c'est de se dire, le jour où on n'est plus en phase avec ce que les Québécois attendent, bah, c'est plus difficile. Puis c'est sûr qu'on ne peut jamais être exactement synchronisé avec les attentes des clients. Il y a toujours... Parfois, on est un petit peu en avance, parfois, on est un petit peu en retard. Donc, c'est ça qu'il faut bien jauger. Mais c'est ça qui tient les équipes éveillées. Et c'est d'ailleurs ce qui anime toutes les équipes à la SAQ, c'est de servir le client, de le satisfaire. Et on a des équipes qui sont incroyablement passionnées partout dans l'organisation, pas uniquement en succursale, c'est vrai aussi en succursale. Mais partout, on a des gens qui sont passionnés à servir le client et à mener cette mission.
Donc, Loïc, il a mentionné un aspect opérationnel. J'aimerais ça toucher, on a remarqué une effervescence sur justement les microbrasseries au Québec. Comment est-ce qu'on jongle avec l'espace sur les étagères, avec ces microbrasseries-là, puis les gros joueurs mondiaux qui vendent plus, devraient avoir plus d'espace, mais on veut quand même essayer de promouvoir ces microbrasseries-là?
Alors, c'est un très bon point. C'est sûr qu'il y a toujours le débat de l'industrie québécoise versus le reste du monde. Bon, historiquement, le Québec n'est pas un grand producteur de vin et de spiritueux. Mm-hmm. Mais ces dernières années, je dirais que ces 15 dernières années, on voit de plus en plus de dynamisme de production, que ce soit sur les vins ou sur les spiritueux. La SAQ doit répondre présent pour ces produits-là. Et nous, on suit en fait le choix des clients. On peut parler des micro-distillateurs ou des produits de spiritueux sur lesquels on a fait des annonces récentes en travaillant avec l'Union québécoise des micro-distilleries. Mais ça a été, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase de les Québécois voulaient énormément de produits québécois, donc on les prenait quasiment tous automatiquement. Et puis il y a eu ensuite la phase où il a fallu être attentif parce que le marché devenait à saturation. Et là, il a fallu, et on est dans cette phase-là, s'adapter pour s'assurer qu'on réponde à la demande des consommateurs. Et nous, je dirais, vu qu'on est le seul à vendre des vins et des spiritueux, on ne peut pas faire ce qu'on appelle de traitement préférentiel national. C'est-à-dire, on ne peut pas, nous, la SAQ, préférer certains produits à d'autres. On se doit de laisser le client choisir ce qu'il veut. Donc, on veut proposer des produits de partout sur la planète. Et on veut le faire à des conditions qui sont, je dirais, les mêmes pour tout le monde, de manière à ce que la compétition soit égale pour tous les produits. Et ensuite, bah, c'est le choix, le mix d'affaires, la qualité du produit, le prix auquel il est vendu, la communication que le fabricant, le fournisseur, le producteur va faire. C'est ça qui va faire la différence. Donc nous, on est dans une logique où on veut expliquer au mieux les produits à nos clients, notamment les produits québécois. C'est quoi un produit québécois? Quels sont les différents niveaux de produits québécois? On veut s'assurer qu'on les met à disposition dans nos succursales, mais ultimement, c'est le client qui choisit. Et nous, on doit comprendre, en fonction des choix des clients, comment s'adapter.
Okay. Et là, peut-être que le financier en moi va parler un peu, mais évidemment, la distribution et le service du client est la priorité de la SAQ, là, comme tu as mentionné. Alors, évidemment, le prix rentre en ouais. jeu. Est-ce qu'il y a des mises en place au niveau, étant donné qu'on achète beaucoup de produits à l'international aussi, au niveau du taux de change? Est-ce qu'il y a des politiques qui sont adoptées? Est-ce qu'il y a des gens probablement qui travaillent dans ce milieu-là? Comment est-ce que c'est ouais. opéré?
Alors, le prix, c'est une question importante. Bah, d'abord, parce qu'en tant que consommateur, évidemment, on veut s'assurer que on fait des bonnes affaires, puis on achète au meilleur prix. Et pour nous, à la SAQ, on n'est pas un commerce tout à fait comme les autres. Donc, on va avoir plusieurs éléments qui vont intervenir. Le premier, c'est que nous, on va chercher le produit à destination. Donc, en fait, le fournisseur va nous vendre le produit. On l'achète, dans notre terminologie, on appelle ça déparcher. Donc, nous, on s'occupe de toute la logistique. On fait le transport de ces produits-là. Dès que ça quitte le producteur, ça devient la propriété de la SAQ qui organise tout le circuit logistique. Donc, sur le taux de change, comme tu posais la question, les producteurs peuvent choisir à l'étranger de nous vendre soit dans leur monnaie locale, auquel cas, nous, on a ce qu'on appelle des taux standards. On publie quel est le taux de conversion entre un dollar canadien et puis la monnaie locale. Ou le producteur, et c'est nous qui assumons une partie de ce risque-là quand c'est nous qui faisons le change, soit le producteur peut décider de nous le vendre en dollars canadiens, et donc c'est lui qui gère son taux de change. Après, sur les prix, ce qui est important, c'est que les prix chez nous sont très transparents. Donc, on affiche toujours, évidemment, bien sûr, les prix de vente, mais on affiche nos tables de majoration. Et à l'inverse d'un commerce traditionnel, nous, on prend sur des produits équivalents dans une même catégorie. On peut prendre, par exemple, les vins rouges entre 15 et 20 dollars, par exemple. On va prendre le même taux de marge, ce qu'on appelle chez nous la majoration, sur tous les produits qui sont de la même catégorie, peu importe leur provenance. Donc peu importe que ce soit un produit qui vienne de France, d'Italie, d'Espagne, de Portugal, des États-Unis, du Québec, du Chili, de l'Argentine, de l'Australie, il va avoir exactement le même taux de marge, ce qui permet de ne pas tomber dans ce que je disais, qui est le traitement national préférentiel. On respecte les règles de commerce international et donc on s'assure que tous les produits sont traités de manière totalement équitable et c'est transparent. C'est-à-dire que pour les financiers, tu disais, c'est le financier Antoine qui me parlait, pour les financiers les plus aguerris, si vous avez le souhait, vous pouvez aller regarder les tables de majoration. Et en fait, en partant du prix de vente, vous allez être capable de recalculer, à l'inverse, le prix d'achat de la SAQ. Ça, c'est très transparent sur toutes nos catégories, sauf les produits faibles en alcool sur lesquels on est en compétition. Et sur les produits faibles en alcool, parce que nous sommes en compétition, là, on ne publie pas nos tables de majoration, même si nous, on a nos propres règles à l'interne.
Okay. Puis, étant sur le sujet des prix, on a eu la chance d'avoir une visite de la SAQ. Puis justement, on a parlé, lorsqu'on était en train de, sur la logistique, on a soulevé la question si les prix pour les restaurateurs étaient les mêmes que les prix pour les détaillants. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de lumière là-dessus?
Oui, alors pour les restaurateurs, ce que nous on appelle les titulaires de permis, donc les clients qui vont revendre les vins ou les spiritueux, en fait, on a des particularités. On leur rend un service un peu différent du service des clients consommateurs. Certains peuvent se faire livrer, je dirais, directement à leur hôtel ou à leur restaurant. D'autres peuvent décider d'aller dans des succursales ou dans ce qu'on appelle des pays emportés. On a quelques succursales pays emportés. Donc on a un circuit de distribution qui est un petit peu différent du circuit du grand public. On a une majoration qui est aussi différente de celle appliquée pour le grand public. Et évidemment, les titulaires de permis récupèrent les taxes sur les produits qu'ils achètent chez nous parce que eux revendent ces produits-là, soit directement, quand ils vendent une bouteille de vin dans un restaurant, soit en le transformant dans des cocktails, par exemple. Donc on a une spécificité, on a des tables de majoration qui sont adaptées pour eux. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un canal au Québec qui est assez connu, mais parfois pas bien compris, qui s'appelle l'importation privée. L'importation privée, c'est des vins et des spiritueux que la SAQ importe, c'est-à-dire c'est pas l'agent qui l'importe, mais l'agent représente le produit. Et beaucoup de titulaires de permis décident de passer avec des agents pour des produits dits d'importation privée. Et donc là, le circuit est un petit peu différent, mais c'est la même logique. Il y a des tables de majoration spécifiques pour les produits dits d'importation privée.
OK. Ben, parlant d'importation privée, as-tu peut-être une histoire cocasse ou intéressante avec un vin d'importation ou un...
je dirais que la chose la plus importante, c'est que les vins d'importation privée, historiquement, c'était un canal qui était, ouvert quasiment exclusivement à des clients qui avaient fait des visites dans des vignobles et puis qui se disaient « c'est merveilleux, je veux avoir ce produit-là ». Puis la SAQ n'avait pas décidé d'avoir ce produit-là. Bon, on a quand même, nous, dans une année, près de entre 20 et 30 000 produits différents dans une année, donc on n'en manque pas, hein. Mais bon, évidemment, on peut pas avoir les 200 000 produits qui sont présents partout sur la planète. Donc l'importation privée au démarrage, ça servait à ça. Et puis, des agents se sont organisés pour rendre un service que la SAQ ne rendait pas. Et c'est une industrie qui, petit à petit, a pris de l'ampleur. Et la chose importante, et, alors c'est pas cocasse, mais c'est vraiment intéressant de le remarquer, c'est que on est là dans les premiers moments où on rend disponible sur SAQ.com les vins d'importation privée. Okay. Donc nous, la SAQ, on ne fait pas la mise en marché de ces vins-là. Ce sont les agents qui continuent à trouver leur clientèle, à expliquer leurs produits, à les faire déguster. C'est eux qui font la mise en marché de A à Z. C'est pas des produits qu'on retrouve sur nos tablettes. Mais on vient de commencer, on a fait un prototype cet été. Là, il y a eu des gros salons d'importation privée pendant lesquels les consommateurs qui visitaient pouvaient commander sur SAQ.com les produits et les commander à la bouteille, alors qu'historiquement, c'était des caisses, fallait acheter toute une caisse. Là, maintenant, c'est disponible à la bouteille. Donc, l'importation privée, pour nous, c'est un dispositif intéressant dans tout notre écosystème. C'est pas des ventes qui sont colossales en termes de millions ou de milliers de dollars pour nous, mais elles sont importantes dans l'écosystème. justement pour permettre aux Québécois d'avoir du choix encore plus large. Et on est très content de pouvoir le rendre disponible sur SAQ.com. Et on espère que ça va se développer. On fait un très gros investissement sur notre chaîne logistique et sur nos capacités logistiques. On est en train de construire un nouvel entrepôt qu'on appelle le Centre automatisé de Montréal, qui sera disponible en 2027. Ça va nous permettre de rendre 20 000 produits disponibles sur SAQ.com. On pense qu'on sera à ce moment-là sans doute le plus gros détaillant de vins et de spiritueux partout sur la planète à offrir au même moment 20 000 produits accessibles à la commande, dont les produits d'importation privée.
Donc, on a mentionné la chaîne d'automatisation, potentiellement la législation. Quels sont les défis ou opportunités présentement pour la SAQ, l'industrie des vins ou des spiritueux, et dans le futur que vous prévoyez?
Alors, c'est sûr que notre industrie particulièrement est soumise à des évolutions, un peu comme il y en a eu au fil du temps. C'est une industrie qui a toujours eu pas mal d'évolutions à gérer. Donc, dans ces évolutions-là, il y a les goûts qui évoluent, les types de produits qui évoluent. Donc, il y a des tendances de consommation auxquelles nous, on se doit de s'adapter. Puis je ne veux pas forcément rentrer dans toutes les tendances, mais on peut parler de la préoccupation grandissante sur la consommation d'alcool. Donc des produits, ce qu'on appelle chez nous faibles en alcool ou légers en alcool. Donc les faibles en alcool, c'est maximum 0,5 degré d'alcool. Donc d'autres appellent ces produits-là des produits sans alcool. Nous, on les appelle faibles en alcool parce qu'il y a toujours un peu de résiduel. Il y a ces produits-là, puis il y a les produits légers en alcool, c'est-à-dire des produits alcoolisés qui sont entre 6, 7, 8, 9, 10 degrés d'alcool maximum. Donc ça, c'est aussi une tendance qui se développe beaucoup. Les gens veulent avoir des produits alcoolisés, mais pas forcément aussi élevés en titrage d'alcool. Avec le réchauffement climatique, ça a tendance à rendre notamment les vins de plus en plus, je dirais, sérieux en termes de degrés d'alcool. Donc ça, faut intégrer ces tendances-là. Mais pour nous, la SAQ, un défi important, c'est de continuer à se transformer et d'être capable de le faire de plus en plus vite. Parce que ce qu'on constate, puis je pense que notre industrie n'est pas différente d'autres industries, c'est que les cycles se raccourcissent. Avant, les tendances prenaient un petit moment pour éclore, et puis elles étaient là pour quelques années, et puis ensuite on passait à une autre tendance. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les choses ont tendance à aller un petit peu plus vite. Le monde moderne va un petit peu plus vite. C'est pareil pour nous. Donc nous, en tant qu'organisation, on se doit de continuer à être toujours de plus en plus... Alors, j'aime pas le terme agile parce qu'il est très utilisé, puis je trouve qu'il fait pas justice à ce que ça veut dire et à l'effort que ça demande pour les équipes. Moi, je préfère le terme de simplicité. On doit se simplifier pour être capable d'agir plus vite et aussi de tester plus vite. Parce qu'on peut être 10 autour de la table à bien réfléchir. C'est très intéressant, mais la personne qui a la réponse, c'est le consommateur. Donc plus vite on est au contact du consommateur, plus vite on est capable de comprendre si oui ou non il aime ce qu'on est en train de lui proposer, et puis on est capable de l'accélérer ou de s'adapter en fonction de ce qu'on voit.
Super, merci. On va transitionner vers notre segment un peu plus vers mentorat. Pour commencer, j'aimerais revenir sur une question que j'aurais voulu demander au départ durant votre description de votre parcours professionnel. Dans le fond, tu as décidé de faire ton MBA puis de retourner aux études en 2019, lorsque tu étais vice-président des exploitations.
Ouais.
Qu'est-ce qui a motivé à retourner à l'école, rendu à ce stade-là de ta carrière, qui aurait pu être le summum pour quelqu'un d'autre? Pourquoi tu as décidé de retourner aux études à ce moment-là?
Alors, je le disais, moi, mon moteur personnel, c'est l'apprentissage. J'ai besoin d'apprendre. Je pense que je me suis toujours nourri de différentes sources d'apprentissage. Les gens autour de moi m'ont beaucoup appris, mes collègues, mes relations d'affaires, les situations que j'ai vécues, certaines lectures. Je lis beaucoup de livres d'affaires. C'est quelque chose qui m'intéresse sur plein de sujets différents. Donc, je dirais que j'avais une bonne hygiène d'apprentissage. Mais arrivé autour de ma cinquantaine, parce que c'était à peu près à ce moment-là, j'avais 50 ans, je me suis dit que c'était peut-être le moment était peut-être venu que j'aille me faire un peu brasser par d'autres. Puis j'étais dans une position, tu l'as dit très justement, une position qui était une très très belle position, un poste aussi dans lequel on avait plutôt tendance à me dire oui, à être plutôt d'accord avec moi. Et donc je me suis dit, c'est peut-être le moment d'aller se confronter un peu à des manières différentes de voir les choses. Et j'avais aussi la chance que mes enfants soient plus grands, que d'un point de vue familial, personnel, ma disponibilité était présente pour mettre aussi un peu d'énergie, un peu pas mal. d'énergie là-dedans. Donc, je me suis dit, bah, c'est le bon moment. Et quand je me suis dit que j'avais envie de faire ça, la SAQ m'a soutenu, supporté, en disant, bah ouais, c'est une bonne idée que tu puisses y aller. Et j'ai adoré le faire, même si c'était très particulier, parce que c'était au moment de la pandémie. Bon, quand j'ai commencé en 2019, j'avais pas idée qu'on aurait une pandémie. Je sais pas si vous aviez idée en 2019 qu'il se passerait un truc comme la Covid-19, mais... Bon, on voyait pas ça arriver. Puis souvent, la blague, je dis, j'ai fait un beau voyage intérieur puisque c'était le seul permis à ce moment-là. On pouvait pas trop s'échapper ailleurs. Donc, ça m'a gardé concentré sur mes études. Mais j'ai adoré cette expérience. Je pense que j'ai beaucoup appris sur moi au contact des autres.
Évidemment, tu es amené aussi à présenter devant des comités exécutifs ou à présenter devant des conseils d'administration. As-tu des stratégies ou des conseils à des gens comme nous, à qui c'est jamais encore arrivé?
Oui. Puis j'en parle beaucoup à mes équipes parce que... Puis ça se résume d'une manière assez simple, c'est que je dis aux équipes, il faut vendre l'histoire de la solution, pas l'histoire de la recherche. Puis j'ai pas de mérite, j'ai pas inventé cette phrase, je l'ai pris dans une lecture d'un livre qui s'appelle « Trouvez-moi la solution ». Et en fait, souvent, quand on a un problème devant soi, puis qu'on amène une recommandation, on a mené pas mal de recherches pour être capable de trouver la bonne solution ou les deux bonnes solutions qu'on pourrait proposer. Et souvent, l'erreur traditionnelle qu'on est amené à faire, c'est qu'on a passé tellement de temps sur la recherche et on est tellement content d'avoir trouvé la solution qu'on a tendance à vouloir valoriser le travail qu'on a fait, à expliquer comment on a recherché pour trouver la bonne solution. Il se trouve que quand on est de l'autre côté de la chaise et qu'on écoute, c'est peu passionnant de se faire partager l'histoire de la recherche. En revanche, l'histoire de la solution, elle est très séduisante. Donc, et ça demande beaucoup d'abnégation pour être capable de passer de l'un à l'autre. C'est souvent de commencer par les conclusions, puis ensuite de donner un peu plus de détails. C'est un travail de sélection qu'il faut faire. Et souvent, ce que je dis, c'est que c'est pas une question d'intelligence, c'est vraiment une question de mindset, de manière de voir les choses, et que c'est un travail collectif souvent. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas travaillé sur la recherche sont souvent les meilleurs conseillers pour aider à construire l'histoire de la solution. Quand on a beaucoup travaillé sur la recherche, et moi le premier, c'est difficile de s'extraire de ça. Donc le conseil que je donne, c'est commencer par la conclusion et puis parler plutôt de la solution que de la recherche.
Super. Et puis à une échelle un petit peu plus large, quelles qualités considérez-vous comme essentielles pour un leadership efficace, puis comment développer ces qualités-là?
On peut chacun avoir une vision de ça et puis chacun avoir des qualités différentes. Moi, je pense que être à l'écoute, c'est très important. Et pour être à l'écoute, je pense qu'il faut pas avoir, il faut avoir confiance en soi. Parce que quand on a moins confiance en soi, c'est sûr qu'on a tendance à ce que l'écoute puisse venir ou les éléments amenés par d'autres personnes puissent peut-être un peu nous challenger ou nous mettre pas en danger, mais nous stimuler pas forcément de la bonne manière. Donc moi, je crois qu'il faut avoir confiance en soi, mais aussi au même moment être très à l'écoute. Et je pense que ça, c'est deux qualités qui sont très, très, très importantes pour être capable de comprendre et de déceler et ensuite d'engager les troupes, d'engager les équipes, d'engager les gens qui sont autour de nous dans une direction qui peut faire du sens pour une organisation. Donc moi, c'est les deux éléments sur lesquels j'insisterai beaucoup. Et puis une forme de courage aussi à exprimer son point de vue. Puis on parlait un peu de la parole libérée. Bon, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important pour moi parce que j'ai été dans ma carrière dans des moments et dans des endroits où j'aurais aimé qu'un leader devant moi m'autorise peut-être plus explicitement à m'exprimer. J'avais sans doute une retenue sur certaines choses où je me disais, je sais pas si je peux vraiment exprimer ce que j'ai au fond de moi, mais j'ai l'impression que c'est très important, mais je me sens pas forcément à l'aise de le dire parce que peut-être que ça aura des conséquences négatives sur moi, sur ma carrière, sur... Et donc, j'ai parfois rencontré certains gestionnaires ou certains mentors dans ma vie professionnelle qui m'ont ouvert cette porte-là. Mais j'ai trouvé que c'était pas suffisamment répandu. Donc maintenant que je suis dans une position d'autorité, je me dis, c'est mon devoir à moi d'ouvrir cette porte-là pour les gens qui sont autour de moi.
Donc, on parlait de la construction d'une équipe tantôt, puis je veux rebondir là-dessus. Comment est-ce que est-ce qu'il y a certaines qualités, tu avais parlé d'être à l'écoute, puis tout ça, mais est-ce qu'il y a c'est les mêmes qualités que tu recherches chez les individus que tu vas recruter. Ça peut être au niveau d'un comité exécutif. Donc, est-ce que tu cherches aussi quelqu'un qui est à l'écoute, aussi quelqu'un qui t'ouvrirait cette porte-là d'avoir la parole libre, ou c'est des qualités un peu différentes que tu chercherais chez, par exemple, un vice-président?
Ben, c'est sûr que mécaniquement, on a tous un biais à recruter des gens qui nous ressemblent. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que les valeurs qui sont importantes pour moi, j'ai tendance à vouloir les attendre chez les gens qui sont dans mon comité exécutif. Maintenant, je pense qu'il faut un tronc commun qui soit le même, mais il faut aussi mettre à profit de la diversité. Parce que si on veut des solutions intelligentes, si on pense tous de la même manière, bah, ça va aller relativement vite pour se décider, mais il se peut qu'on ait des angles morts assez importants. Puis j'y crois beaucoup, au-delà peut-être un peu d'un effet de mode, ou de... Moi, j'ai eu la chance de vivre dans des environnements, et c'est aussi le cas à la SAQ, où il y a de la diversité. Et je trouve que ça fait des discussions qui parfois sont un petit peu plus tendues, mais qui sont beaucoup plus riches ensuite en termes de décision. Donc j'essaye de ne pas recruter que des gens qui me ressemblent, mais c'est sûr que je souhaite avoir autour de moi des gens qui soient évidemment fiables. Je souhaite avoir des gens qui sont capables de s'engager. Je souhaite aussi évidemment avoir des gens qui ont un bon jugement et des gens qui sont aussi à l'écoute évidemment de ce qui se passe autour d'eux, que ce soit dans l'équipe de direction si on parle de ça, mais aussi dans leurs propres équipes, avec leurs partenaires d'affaires à l'extérieur. On a besoin de faire équipe, donc pour faire équipe, il faut avoir un peu d'ouverture. Donc ça, ce sont des éléments auxquels je fais beaucoup attention, et je pense que les choses qui sont les techniques ou les apprentissages métiers, ça, on peut les amener, ça peut s'apprendre. Les valeurs fondamentales, bon, elles sont pas mal...
Ça change moins,
puis surtout quand on cherche des exécutifs qui ont déjà un peu d'historique. Bon, plus on vieillit, plus on a de mal à changer quand même. Donc c'est sûr que c'est des choses auxquelles je vais vouloir porter attention. Puis je le redis, de la même manière que je disais, la communication, c'est un levier qui est très important pour un dirigeant. Savoir bien s'entourer, c'est aussi un levier qui est important. Et savoir bien organiser le travail autour de soi, c'est aussi très important. Parce que parfois, on a des jugements un peu définitifs sur les gens en disant bah, « lui, il est bon » ou « lui, il est pas bon ». Bon. Je trouve ça toujours très dangereux parce qu'on n'est jamais bon tout seul. On est bon dans un contexte, on est bon par rapport à quelque chose. Et je crois qu'on a tous des forces importantes, mais qu'il faut que ces forces-là, on soit capable de bien les exprimer. Et ça, c'est pas juste une responsabilité personnelle. L'environnement joue aussi. Et en tant que gestionnaire, on a un rôle très important sur l'environnement. Beaucoup plus que sur la production de chacun.
Puis pour nos éditeurs qui sont à l'université, quel conseil auriez-vous à donner, que ce soit au niveau professionnel ou plus personnel, à ces éditeurs-là?
Je sais que c'est des périodes où on essaye tous de... y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, il y a aussi parfois, puis sans doute aujourd'hui pour vous, il y a plus de sollicitations que quand moi j'étais un peu plus jeune, parce qu'on le disait, les choses vont plus vite, les expositions sont plus grandes. Donc toutes ces sollicitations-là, elles peuvent créer peut-être un petit peu de distraction, mais moi j'aurais tendance à dire, il faut être à l'écoute de ce que l'environnement peut nous amener, ça c'est important, mais il faut être curieux aussi, je crois que ça c'est quelque chose d'important. Puis la curiosité, ça se travaille, c'est-à-dire être sincèrement intéressé par des choses qui a priori sont peut-être pas forcément dans notre radar. Puis je me doute que vous êtes curieux, parce que pour organiser ce que vous faites, pour vous déplacer, aller voir des gens qui sont peut-être pas directement dans vos domaines d'activité, vous faites preuve de cette curiosité-là. Je pense qu'on retire toujours énormément de ça, même si peut-être sur le moment, on s'en rend pas bien compte. Mais on est un peu comme des éponges, puis il y a des choses qui mettent un peu de temps à rentrer, puis à s'imprégner, mais un jour, c'est des choses qui nous aident énormément. Donc cette curiosité-là, je pense qu'elle est importante, au-delà de viser, je dirais, une performance académique qui, bien sûr, est importante et le système vous envoie dans cette direction-là. Mais je pense qu'il faut aussi garder un peu de curiosité sur d'autres choses.
OK, super. Donc écoute, passons au dernier segment qu'on appelle les Rapid Fire Questions, où on va te poser des questions un peu rapidement, puis tu sens toi libre de nous donner une réponse qui te convient.
Rapidement, ça va être difficile, hein. J'ai du mal.
Il n'y a pas de problème. Écoute, généralement, au début, le concept était sur un mot, mais finalement,
il a évolué. Ça dérape.
tu parlais des notes, justement, sur une échelle de 1 à 10. À quel point dirais-tu que ton GPA, donc tes notes à l'université, c'est important en tant qu'étudiant, peu importe que ce soit quelqu'un qui rentre sur le marché du travail ou quelqu'un qui retourne aux études par la suite?
Je dirais 5, d'une note de 1 à 10. Je reconnais que c'est très important, mais je reviens sur ce que je disais, l'université a tendance à classer les gens, je crois. Moi, je pars plutôt du principe qu'on est nous-mêmes en compétition avec nous-mêmes. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de se dire est-ce que je suis meilleur que mon voisin. L'idée, c'est de se dire comment je peux être encore meilleur, comment je peux être donner encore le meilleur de moi-même, comment je peux découvrir des choses qui peut-être sont juste en friche et que je peux améliorer. Donc, moi, je crois beaucoup à la contribution et au développement personnel et à travailler à être le meilleur de soi-même plus que de se dire je suis meilleur que telle ou telle autre personne.
Puis, si tu n'étais pas dans le domaine des affaires, quelle serait une autre vocation qui aurait pu t'intéresser?
Alors, je serais chanteur. Moi, je chante. Je fais du chant choral depuis de nombreuses années. Ça a été une révélation dans ma vie, à tel point qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'en ferais mon métier. Puis bon, sans doute, les incertitudes économiques ont fait que je n'ai pas pris cette direction-là. Mais c'est sûr que je serais chanteur ou comédien ou les arts. Ces domaines-là m'attirent énormément. Je ne pense pas avoir non plus un don extraordinaire. Donc sans doute, ça guidait aussi mon choix pour rester dans des études et dans une carrière un peu plus conventionnelle. Mais si on devait refaire ma vie et que la voie que j'ai suivie me serait interdite, c'est sûr que j'essaierais l'autre.
Comment décrirais-tu ta carrière en un mot?
Le changement. J'ai eu la chance de beaucoup changer. J'ai changé de pays, j'ai changé d'industrie à plusieurs reprises. J'ai changé de responsabilité. Donc, j'ai eu cette chance de vivre des changements. Ça a toujours été des choses dans lesquelles j'ai mis beaucoup d'énergie. Donc, j'aime ça et ça caractérise, je pense, bien ma carrière et mon parcours.
Puis, quel livre recommanderais-tu à nos éditeurs?
Alors, comme je vous disais, il y a beaucoup de livres, je lis beaucoup de livres d'affaires. Mon livre référence, c'est « L'entreprise est une affaire de cœur » de Hubert Joly, qui est l'ancien patron de Best Buy. C'est une lecture que je trouve passionnante sur à la fois comment on peut repenser le capitalisme de manière un peu plus actuelle, et en parallèle, il décrit comment il a réussi à retourner la situation qui était quasi désespérée de Best Buy. Donc je trouve que c'est un livre qui est très intéressant à lire et c'est une mine de très très bonnes idées. C'est vraiment un livre très intéressant. Sur les livres, je dirais, plus qui ne sont pas des livres de business, j'aime beaucoup Douglas Kennedy. C'est un auteur que je lis de manière très intéressée parce qu'il décrit des situations sociales. Ce n'est pas des livres d'action, c'est vraiment ça décrit des relations humaines. Et je trouve qu'il a un sens de l'observation et de la description qui m'impressionne. Puis ça m'évade, ça me fait sortir de mon quotidien.
Et quel vin, spiritueux ou autre alcool préfères-tu ou pourrais accompagner ton livre?
Alors, les livres, c'est un peu comme les vins. Je trouve que c'est des belles rencontres, souvent. Puis, si on les aime moins, on a le droit de refermer le livre ou de pas finir la bouteille. Moi, je dis souvent, une bonne bouteille, c'est une bouteille vide. Je crois qu'il y a plein de choses. Puis, bon, à la SAQ, on manque pas de très, 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 très bonnes découvertes. Donc, je me prononcerai pas sur un vin que je préfère par rapport à un autre. La découverte, c'est très intéressant. Puis, nos équipes en succursale sont aussi capables, souvent, de bien comprendre ce qui nous intéresse en tant que client et de nous guider au travers de toute l'offre de la SAQ. Donc, je vais leur faire confiance et je vais inviter tout le monde à aller vivre cette expérience avec ou sans livre dans nos succursales.
Super. Ben écoute, merci beaucoup, Jacques. Merci d'être prêté au jeu et de nous avoir été à la SAQ.
Merci beaucoup, puis je vous souhaite bon succès pour la suite. This podcast is provided on the understanding that it does not constitute financial or other professional advisory services. Instead, we encourage you to discuss your career options, as well as financial undertakings with other professionals who specialize in alternative securities and asset management or any other field in financial services. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at a personal and individual risk. This podcast should not be considered professional advice. Guests who speak on this podcast express their own opinions, experiences, and conclusions. The views expressed on this platform are personal opinions and only, and should not be construed as financial advice for a given situation or from a given institution. While all attempts are made to present accurate information, it may not be appropriate for specific circumstances, and information may become outdated over time. No firm nor any company providing financial support endorses or opposes any particular view or tools discussed in this podcast. This podcast is available for private, non-commercial use only. Advertising, which is incorporated into, placed in association with, or targeted towards the content of this podcast is forbidden. This podcast may not be edited, modified, or redistributed.
The Corporate Chat Podcast is no liability for any personal activities in connection with this podcast or for personal use of this podcast in connection with personal websites, computers, or playing devices. Moreover, the Corporate Chat Podcast makes no warranty that this podcast or the server that makes it available is free of viruses, worms, or other elements or codes that manifest contaminating or destructive properties. McGill University and our sponsors expressly disclaims any and all liability or responsibility for any direct, indirect, incidental, special, consequential, or other damages arising out of any individual's use of, reference to, reliance on, or inability to use this podcast or the information presented in this podcast.